avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous prions. Oui, Seigneur, tu nous as réunis, mais pas pour que nous passions simplement un bon moment ensemble, mais pour que nous apprenions de ta parole. Et tu veux nous enseigner par ta parole, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours. Tu as toujours, jusqu'à la fin, tu as quelque chose à nous enseigner. Nous avons besoin, Seigneur, de ton Esprit Saint pour qu'il éclaire cette parole, pour que par la suite elle puisse nous faire porter du fruit. Porter du fruit, c'est-à-dire œuvrer pour ta gloire, pas pour la nôtre, pour la tienne, pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons nous édifier, non pas pour notre ego, mais pour mieux saisir tout ce que tu as prévu pour nous, pour pouvoir mieux communiquer ta parole au monde. Alors, Seigneur, que ton esprit fasse maintenant toute la lumière sur ces paroles qui vont être dites. Amen.
Amen.
Ce sera le texte de l'évangile du jour qui se trouve dans Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Marc 5, 21-43. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talita Koumi », ce qui se traduit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations, afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. J'aime bien ce dernier verset. Il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Vous imaginez la scène, ils sont tous frappés de stupeur parce qu'elle était morte, et Jésus l'a ressuscité. Et ils sont tous comme frappés, et Jésus lui a donné à manger. son âge, on a l'estomac creux, aller lui chercher un McDo, là, un burger. Bah, c'est ce que mangent les jeunes, non? Moi, je trouve ça adorable. Ils s'en sont tous là sur la résurrection, c'est inimaginable, et puis il faut lui donner à manger. Formidable. Alors ce texte, oui, va nous permettre de parler des miracles. Des miracles de Jésus, vous savez, qui sont très très nombreux. Hein, on en a pratiquement toutes les pages dans l'Évangile. Parler des miracles, mais pas que. Pas seulement. Pas que de ce pas français. Et pas seulement. Alors, parlons d'abord, déjà des miracles en général. Alors, on va revenir sur ces deux miracles-là qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Hein, vous l'avez remarqué, il y a une interaction. Hein. C'est vrai que si la femme n'avait pas interrompu Jésus, il serait arrivé à temps pour la guérir, pour guérir la fillette, plutôt que de la ressusciter. Enfin, oui, quelque chose d'intéressant. Mais bon, d'abord, les miracles en général. Quelle était la mission de Jésus sur terre? La mission de Jésus était peut-être, oui, d'accomplir des miracles, mais ce n'était pas forcément la première mission. Jésus, vous le savez, j'espère ne rien vous apprendre, Jésus est venu sur terre pour annoncer la grâce aux hommes, la réconciliation avec Dieu, c'est pas une mince affaire, hein, d'annoncer le pardon des péchés pour ceux qui se repentent, d'annoncer le royaume des cieux qui s'est approché, quelque chose d'énorme. Et il avait 3 ans pour ça. Hein, 3 ans. Voilà sa mission. Bon. Alors, pourquoi au milieu de ce gros travail, en plus, pourquoi Jésus a-t-il guéri et pourquoi a-t-il fait des miracles en général, mais tout particulièrement, pourquoi a-t-il guéri de nombreux malades, infirmes, etc., etc. La première réponse qu'il faut donner à ça, même si ce n'est pas forcément la plus importante, mais s'il faut toujours que ce soit la première, c'est que Jésus débordait de compassion pour tous ces pauvres gens qui l'approchaient, qui l'entouraient. Jésus était comme ça. Un cœur immense, et il était ému de compassion, c'est dit souvent dans l'Évangile, ému de compassion lorsqu'il voyait la détresse humaine, la souffrance, la misère. Première chose. Mais nous savons, alors là on fait un petit peu de prospection théologique, nous savons que ces miracles avaient aussi d'autres fonctions. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de fonction, mais oui, on va le dire comme ça. Vous savez que dans la Bible, les prophéties sont souvent accompagnées de signes. C'est-à-dire quelque chose qui est prophétisé parfois des siècles avant la réalisation de la prophétie. La prophétie comporte des signes de façon à ce que lorsque la prophétie se réalise, on puisse authentifier cette prophétie, dire c'est bien ce qui était annoncé. Et bien pour Jésus lui était annoncé depuis des siècles et des siècles, évidemment. En tant que Messie, le Messie qui arrive, le Christ, ça veut dire la même chose, hein, en grec et en hébreu, Messie, Christ, qui arrive sur terre, donc prophétisé depuis longtemps, et les signes, eh bien, ce sont les miracles. Et on en a la preuve avec, vous savez, la question de Jean-Baptiste, du fond de sa prison. Il est plus très loin d'être décapité, pour ça c'est une histoire un peu sordide, et avant de mourir, il fait demander à Jésus, par un intermédiaire, « Es-tu celui, il a un doute, hein, es-tu celui que nous devions attendre, ou que nous attendions, ou faut-il en attendre un autre ?» Et alors Jésus ne lui répond pas, « Oui, c'est moi, je suis le Messie, t'inquiète pas, tu peux rester tranquille. » Non, Jésus lui dit, « Regarde bien, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent sans problème, les lépreux sont purifiés, etc. etc. » Et Jésus sait que Jean-Baptiste, qui connaît les Écritures, que Jean-Baptiste, il va faire le lien et dire « Ah oui, les signes sont là, c'est donc que c'est bien lui. » Donc les signes, qui sont les miracles, authentifient la réalité, la messianité de Jésus. Bon, on va refermer un petit peu le volet théologique. Voilà, donc, les miracles de Jésus, ils étaient incontournables. Ils devaient arriver, et tout particulièrement les miracles de guérison. Alors maintenant, voyons, on a vu du côté de Jésus, voyons du côté des miraculés. Alors là, on peut s'intéresser davantage à ces deux personnages, Jaïrus Et puis cette femme, qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, de leur point de vue, qui était Jésus ? Essayons de nous mettre à leur place, à leur époque. Question pas facile, parce qu'il n'est pas du tout certain que tous ces braves gens qui entouraient Jésus, qui ont vécu à l'époque de Jésus, avaient instantanément compris qui était vraiment Jésus et quelle était sa mission. Ce qu'il faut quand même préciser une chose, c'est que Jésus, lorsqu'il accomplit un miracle, il établit toujours le lien entre la guérison, l'accomplissement du miracle, et la foi. Toujours. Pratiquement toujours, c'est sous-entendu parfois, et parfois très direct. La meilleure preuve, c'est qu'il termine la plupart du temps un miracle en disant « Va, ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé. Mais ces braves gens, est-ce qu'ils cherchaient à être sauvés ? Ils cherchaient d'abord à être guéris. Alors ça tombe bien, dans le texte grec, dans le mot grec, j'ignore qu'est-ce qu'il est, mais c'est le même verbe qui veut dire à la fois guéri et sauvé. Alors on peut jouer sur cette ambiguïté, bien sûr. Donc Jésus, retenez bien ça, Jésus veut toujours, toujours établir un lien, une passerelle entre le miracle, la guérison, ce que vous voulez, et la foi des hommes. Pas forcément de celui, de celle qui demande la guérison, mais la foi en général. On a d'ailleurs une chose intéressante à ce sujet, c'est dans l'évangile de Matthieu. Pardon. J'avais mis un marque-page. Bon, je ne l'ai plus. Si, c'est à la même page d'ailleurs. C'est au chapitre 6 de Marc. Marc chapitre 6, verset 4 ou 5. C'est lorsque Jésus arrive à Nazareth. Et à Nazareth, tout le monde le connaît, forcément. Il était gamin, il a joué, il était à l'école à Nazareth. Tout le monde le connaît. Alors du coup, il se prend pour qui celui-là, alors on le connaît, c'est le fils du charpentier, c'est le frère de tel, la sœur de tel, le fils de tel, de Marie, de Joseph, on le connaît. Jésus dit, nul des prophètes en son pays, hein, c'est ce qu'il dit, et un peu plus loin, il est dit, il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur incrédulité. Alors moi, ça m'a frappé, ça, je me dis, tiens, Jésus n'a pas pu faire de miracles. Alors, quand même quelques malades, c'est pas mal, hein. Mais enfin, bon, il n'en a pas fait à tour de bras comme il faisait partout. Tout simplement parce qu'il était dans un milieu d'incrédulité. Alors ça aussi, retenez-le bien, là où il y a absence de foi, il n'y a pas de miracle possible. Alors, intéressons-nous maintenant à la foi des miraculés. Alors, on va revenir sur notre texte, là. Cette femme atteinte d'une perte de sang, ce Jaïrus, chef de la synagogue, dont la fillette est en train de mourir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, connaissait-il Jésus ? Certainement pas comme Jésus était réellement, ce qu'il était réellement. On le voit bien tout du long de l'Évangile, même les disciples, ils n'avaient pas bien saisi. Alors d'ailleurs, quand il y a ce fameux passage quand Jésus dit ben, « Qui dit-on que je suis ?» Alors là, les réponses, elles sont X et Y. Un prophète, alors, il y en a qui avancent avec plus de précision, Élie, d'autres qui disent Jean-Baptiste, même Hérode, il était persuadé, le roi Hérode, il avait fait décapiter Jean-Baptiste dans sa prison, il était persuadé que c'était Jean-Baptiste ressuscité. Alors il commençait à avoir peur, ce qu'il dit. C'est un revenant, peut-être. Vous voyez, personne, finalement. Alors si, ah oui, si, il y a Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors si, ça y est, lui, il a compris. Ben, même pas, parce que encore faut-il que la notion de Christ ou de Messie, dans la tête de Pierre, corresponde à la réalité de Jésus. Et c'était loin d'être le cas. Pierre s'est beaucoup trompé sur la personne de Jésus, lui aussi. Donc on va partir du principe que, à ce moment-là précis, personne ne savait vraiment qui était Jésus. Alors, comment avoir foi en lui ? Bon, ben tout de même, il savait que c'était un homme de Dieu. C'est déjà pas mal. C'est C'est un homme de Dieu. Bon. Et puis, là-dessus, la réputation de Jésus avait fait une traînée de poudre. Vous pensez bien, il guérissait à tour de bras, à droite, à gauche. Il est dit dans un... Alors celui-là, je vais peut-être le retrouver, celui-là, dans un petit verset, que partout où il passait... Ben non, je l'ai perdu aussi. Partout où... Je devrais être plus sérieux dans mes marque-pages. Bon, il est dit dans un des évangiles que partout où il passait, les gens, comme cette femme, touchaient. Il suffisait qu'ils touchent la frange de son vêtement et ils étaient guéris. Alors vous imaginez, la réputation, elle est partie comme une traînée de poudre. Il n'y avait pas besoin d'internet, il n'y avait pas besoin de téléphone portable. Et c'est parti, surtout dans un petit pays comme Israël. Alors tous ces gens venaient... bon, mais la démarche qu'ils venaient faire auprès de Jésus, est-ce que c'est une démarche de foi? Oui, mais enfin, moi, je vais vous dire, franchement, mettons-nous à leur place. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher? Est-ce qu'ils venaient chercher l'annonce de la grâce du royaume des cieux qui s'est approché, la rédemption, le pardon des péchés? Ça m'étonnerait. Ils venaient chercher une guérison. Ils venaient chercher un miracle. C'était quasi obsessionnel. Et qui leur jetterait la pierre? Imaginez la situation de ces pauvres gens. Jaïrus, il voit sa fille mourir. Cette femme, elle se voit malade depuis 12 ans, elle a dépensé toute sa fortune. Catastrophe. Ils viennent chercher un miracle. Alors, est-ce que c'est de la foi? Eh bien oui, il faut croire. Il faut croire, puisque regardez, ils ont été guéris. Enfin, ils ont été exaucés. Autre erreur sur la personne de Jésus. Autre chose qui nous dérange finalement, spirituellement. Regardez cette femme, comment elle approche de Jésus. Il est dit par derrière, c'est marqué, hein, elle approche par derrière, elle va toucher son vêtement et elle se dit, si je toucherai son vêtement, je serai guéri. Et ça, elle y croit. Quelque part, c'est de la foi. Mais enfin, ça ressemble un peu à, vous savez, un peu de la superstition. Le talisman, le fétiche, le truc, vous voyez, je ne sais pas comment dire les choses. Ça ressemble pas à de la foi pure, enfin bon. Ça fait un petit peu curieux. Et bien ça marche. À l'instant même où elle touche le vêtement de Jésus, elle est guérie. Alors est-ce que son vêtement est magique? Bien sûr que non. Mais bien sûr qu'on comprend, nous, que la volonté de Dieu à ce moment-là, c'était de lui accorder sa guérison, ce n'est pas le vêtement. Le vêtement qui était magique. N'est-ce pas? Encore autre chose qui nous révèle une méconnaissance de la personne de Jésus, de qui il est, comment vont les choses avec Jésus. Regardez, bon, avec Jaïrus, en chemin pour aller guérir la fille, on lui annonce trop tard. Et c'est vraiment le mot, il n'est pas dit, mais c'est le mot. Trop tard. Elle est morte. Inutile de déranger Jésus. C'est trop tard. Alors, c'est quand même extraordinaire parce que tous ces gens sont absolument persuadés que Jésus est capable de guérir toutes les infirmités, toutes les maladies. Pourquoi? Parce qu'il l'a démontré. Il a rendu la vue à des aveugles de naissance. Il a fait marcher des gars qui n'avaient plus de jambes, quoi, qui étaient cravataires. Il a purifié en quelques secondes des lépreux. Qui en général finissait très mal, hein, puis défiguré, etc., etc. Alors tous ces gens sont absolument persuadés que Jésus peut tout guérir, tout. Mais alors par contre, la mort, ah non, 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 non. Oh là là, la mort là, c'est irréversible. Vous voyez comme c'est ancré au passage. Regardez la puissance que la mort peut avoir sur l'esprit humain. Ah, la mort, une fois qu'elle y est, c'est fini, terminé, on n'en revient pas. Je vous prends un autre exemple de cette mentalité. Quand l'apôtre Paul prêche à Athènes, dans l'Areopage, alors il est devant l'élite de la société grecque. Hein. Bon. Ces gens sont très intéressés par l'évangile que prêche Paul. Ils l'écoutent avec attention, avec beaucoup d'intérêt. Et à l'instant même où Paul parle de la résurrection, alors là il se lève en rigolant, se moquant de lui. Nous t'écouterons là-dessus une prochaine fois. Hein. L'air de dire, oui, ça va. Ah non, la mort, oulala, on touche pas. La mort, une fois qu'elle y est, ça y est, c'est fini. D'où là, toute la difficulté d'annoncer l'évangile. Parce que annoncer l'évangile, c'est annoncer quoi? C'est annoncer la résurrection du Christ. Si on annonce à tout le monde qu'il est mort sur une croix, ah voilà, tout le monde vous croit, ah, oui, c'est vrai, oui. Certainement, c'était l'habitude des Romains, dès qu'il y en avait qui gênaient, puis qu'ils ont flanqué sur une croix, il était mort. Maintenant, allez prêcher la résurrection, vous allez voir. C'est une autre paire de manches. Alors vous voyez, toutes ces erreurs, je me dis, mais... nous, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on arrive 2000 ans après, on n'a qu'à ouvrir la Bible pour tout comprendre, toute la révélation, elle est dans la Bible. Et les gens, là, ils ne l'avaient pas. Bon. Et pourtant, cette femme est guérie à l'instant même où elle touche le vêtement de Jésus, et la fille de Jaïrus va être ressuscitée. En dépit des moqueries des gens, en dépit. Alors moi, je me dis, finalement, la foi de tous ces gens, elle était... trois fois rien, elle était au ras de terre, au ras des pâquerettes, et bien Jésus s'en est contenté. Il y avait ça de foi, ça suffisant pour Jésus. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et regardez ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit dans ce que lui fait dire Matthieu dans le chapitre 17, verset 20. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Le grain de moutarde, c'est l'une des plus petites graines potagères. Hein, d'ailleurs, c'est expliqué dans un autre passage. Lorsque Jésus fait une parabole sur le royaume des cieux, il dit le royaume des cieux est comme un grain de moutarde. C'est tout petit, 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 petit. Mais dès que c'est en terre et que ça germe, ça devient presque un arbre dans lequel des oiseaux font leur nid. Et on va dire, oui, on part de rien et on arrive à quelque chose de grandiose. Et bien là, c'est pareil. Si votre foi est comme un grain de moutarde, minuscule, c'est largement suffisant. Pour tout ce que vous demanderez, pour tout ce dont vous avez besoin. Et bien oui, la foi de ces gens, elle n'était pas tout à fait la nôtre, parce que, bon, ben, ils avaient une excuse aussi, ils n'avaient pas la révélation. Mais elle n'était pas terrible, elle avait superstition, elle a touché le vêtement, etc. Ah ben non, la mort, c'est fini, c'est trop tard. Vous voyez, beaucoup d'incrédulité. Ben, moi, j'y vois plus d'incrédulité que de foi chez ces gens-là. Mais, le petit zeste de foi qu'il y a chez eux, pour Jésus, c'est suffisant. Bien, alors, 2000 ans plus tard, 2024, pour nous, qu'est-ce qu'il en résulte? Alors, nous sommes, figurez-vous, nous sommes dans une église, nous formons, ici à Thiers, des Sarrés, nous formons une église qui croit au miracle. Ben, c'est pas une évidence, hein. Je vous fais remarquer, surtout dans des milieux réformés, il y a énormément de milieux réformés où on vous dit, vous nous faites les miracles. Dans le meilleur des cas, on vous dit, c'était au temps biblique. C'était au temps biblique. Maintenant, fini, depuis 2000 ans, depuis que Jésus est remonté au ciel, c'est terminé les miracles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, tous ceux qui disent ça sont des gens qui ne lisent pas leur Bible. Jésus dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Change pas. Bon. Et puis moi je me dis une chose encore plus simple, mais pas besoin d'ouvrir la Bible. Ben, si Jésus a eu compassion de tous ces pauvres gens, pourquoi aujourd'hui il n'aurait pas compassion de nous lorsqu'on souffre de la même façon que ces pauvres gens? Il change comme ça, Jésus? Ben non, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Déjà. Et alors, il y a quand même une petite différence entre les miracles du temps de Jésus et les miracles qui se produisent au-delà de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Je vous garantis qu'il se passe chaque année des milliers de miracles. Mais cette fois-ci, à l'échelle planétaire, donc c'est beaucoup plus dilué, si vous voulez. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Israël est un tout petit pays, alors évidemment, tout ce qui se passait, tout le monde le savait tout de suite. Bon, des milliers de miracles. Regardez dans l'Église persécutée ce qui se passe. Ben, c'est le premier des miracles, c'est que cette église est grandie, alors qu'elle est persécutée, et alors d'une façon effroyable. Dans certains pays, c'est effroyable. Corée du Nord, en Chine, enfin, en Inde maintenant, en Iran, etc. En Afrique aussi, il y a énormément de persécutions maintenant, des églises brûlées, etc. Et les communautés grandissent. Bah, si ce n'est pas du miracle, expliquez-moi qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Bon, et en même temps, peut-être que actuellement, s'il se produit des miracles parmi nous, et je crois qu'on peut témoigner de miracles en remontant dans l'histoire de notre Église, les miracles de maintenant sont certainement moins spectaculaires que ce qu'ils étaient. À l'époque, je crois qu'il y avait un besoin de, allez, je vais dire le mot, de sensationnel. Jésus avait que 3 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait 3 ans pour donner son message de la part de Dieu, qui est un message extrêmement complet, pas facile à recevoir dans une société qui vivait dans une tradition de siècles et de siècles, le judaïsme, etc. Et d'un seul coup, là, Jésus venait tout bousculer et il fallait qu'il percute. Et donc, c'est clair que là, les miracles l'ont quand même beaucoup aidé. Même si Jésus cherchait dès le départ à faire dans la discrétion, regardez combien de fois il dit aux miraculés, rentre chez toi, loue le Seigneur, ne va pas crier sur les toits. C'est ce qu'il faisait, hein. Dès qu'il rentrait, tout le village le savait, ouais, je suis guéri. Mais vous voyez, il y avait une petite différence à ce niveau-là. Mais regardez bien, regardez avec les yeux du cœur, regardez comment le monde pourrait-il tenir le coup avec tout ce qui s'y passe si le Seigneur n'était pas à l'œuvre avec des miracles. Alors, la question maintenant, elle est aussi pour nous. Qu'en est-il de notre foi? Parce que nous, on aimerait bien, on va chanter, tout à l'heure, manifeste-toi, qui se produit des prodiges et des signes, hein, c'est le chant. On va chanter tout à l'heure, c'est Sophie qui a choisi, c'est pas moi. On voudrait bien qu'il se passe, parce que c'est quand même chouette qu'il se passe des miracles dans une communauté. Qu'en est-il de notre foi? Je vous rappelle que Jésus ne peut œuvrer que dans un milieu où il y a de la foi. Alors on se dit, oui, parce que là, la foi, on est plus souvent dans le doute. Moi personnellement, je veux dire, si je fais le compte, je suis plus souvent dans le doute que dans la foi. Vous savez, la foi, la vraie de vraie, quoi, c'est le granit, le béton armé, l'acier trempé, le suédois. On a Suède d'ailleurs parmi nous. Qu'en est-il de notre foi? Eh bien, la bonne nouvelle de ce matin, mes frères et sœurs, c'est que, ça va vous faire drôle, notre foi elle est toute petite, oui, elle est comme un grain de moutarde. Et avec ça, Jésus nous dit, c'est suffisant, c'est bon, c'est bon. Mais le problème, c'est que la foi, elle a un effet bizarre, c'est que on a une certaine foi, ok? Mais il faut en être persuadé. Autrement dit, il faut avoir foi dans sa foi. Si vous ne suivez pas, vous levez la main. Et j'ai entendu il y a de nombreuses années un prêtre qui prêchait à la radio et qui disait, il voulait encourager son auditoire enfin à être persuadé de sa propre, de chacun soit persuadé de sa propre foi. Et il disait, au lieu de douter de ta foi et d'avoir foi dans ton doute, doute de ton doute et aie foi dans ta foi. Non mais c'est clair. Nous doutons de notre foi. C'est quand même extraordinaire, on se tire de ton endroit. Quand il s'agit de prier pour quelqu'un, est-ce qu'on prie en étant persuadé que le Seigneur va faire quelque chose pour cette personne? Parce que sinon, ben, Jésus il nous dit entre les lignes là, avec Nazareth, là, l'épisode du passage à Nazareth, désolé, moi je peux rien faire, t'as pas la foi, t'y crois pas, tu me demandes un truc, t'y crois pas. C'est comme si je dis par exemple, je dis à Alain, est-ce que tu vas me prêter 10 euros?
Compte pas sur moi.
Voilà, vous voyez, pourquoi? Mais j'y croyais pas d'avance. Donc vous voyez, il m'a répondu, compte pas sur moi. C'est pareil avec le Seigneur. Si on lui demande, si nous, on passe notre temps à lui demander, à la prière d'intercession, lui demander toutes sortes de choses. Et pourquoi pas la guérison de nos malades? Dans Jacques, il est écrit, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'on prie pour lui. C'est vrai qu'il n'y a pas marqué qu'on prie pour sa guérison, il y a marqué prier pour lui. Mais quelque part, vous rappelez, guérison, salut, pour qu'il soit sauvé, n'est pas forcément guéri, il ne sera pas forcément guéri, mais il va recevoir quelque chose du Seigneur, peut-être plus grand que la guérison encore. Mais ça, il faut y croire. Alors ça, c'est un peu la... Oui, à la fois la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que notre foi est toute petite, pas une bonne nouvelle. Mais avec cette toute petite foi, le Seigneur fait des miracles. Ça, c'est la bonne nouvelle.